Et puis une petite question pour l'ensemble de ces modèles alternatifs d'Isabel. Quand on partage du même au même, la formule m'a séduit pleinement. Et il y a un problème, je voudrais revenir à ce problème de perte dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelque chose dans les mythes, dans les textes d'Isabel, sur lesquels on n'a pas peut-être mis suffisamment l'accent. C'est qu'il n'y a pas tant de pas de temps dans le mythe. Il y a trois temps de pas de temps. Il n'y a pas que la tour et la dispersion. Il y a ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant est très intéressant parce que c'est la peinture même de la tautologie. C'est des gens qui ont une seule lèvre et des paroles au pluriel, des paroles uniques. Alors du coup, des gens qui ont une seule lèvre et des paroles uniques ne peuvent que se dire ensemble. Et là, le texte est prêt par l'homme. Je vous invite à lire la traduction proposée par Louis Saint-Sauveur. Ils se disent l'un à l'autre. Et attendez, oui, le ton de rythme est plafonné à l'assemblée. Donc, on dirait que la tautologie ne peut avancer que par bégaiement, finalement. Et finalement, ce qu'elle a approché, c'est de lui de définir dans l'identité totale. Et je crois que c'est là que je joue un peu ces deux figures dont parlait Descamps hier, en citant Foucault. C'est-à-dire cette lutte constante dans les figures de l'autre entre la sympathie, qui est la tendance à rendre tout ce qui est semblable le même, et l'antipathie qui permet finalement que ça, il y ait de la différence. Or donc, à partir de ce problème, donc finalement la tour de Babel peut être lue comme un élément créateur de l'humanité, à partir de cette maladie de la tautologie et du bégaiement des hommes, il y a, donc, qui cristallise nécessairement dans une catastrophe qui va donner naissance à la dispersion, on arrive à ce problème ou à cette situation des langues multiples. Or là, l'image de la traduction peut être fausse pour parler de ce qui reste, parce que la traduction donne l'idée d'une langue dont on passe pour aller à la suivante, et donc la perte apparaît comme problème. Mais si on se dit qu'il y a des langues différentes, c'est qu'on a créé finalement l'absence d'origine, donc l'absence des lieux, et les origines deviennent, et là je crois que je vous fais plaisir, c'est grave et appelé Ursprung, c'est-à-dire ce qui est saut original, donc ce qui est d'origine, simplement ces passages. Effectivement, ce sera le même à même, peut-être, mais en tout cas, le même ne peut que se décliner et que se conjuguer, jamais ce qui fait se voir. Donc, le problème, si je suis là, c'est que alors je fais une interprétation absolument positive, béate, contente, d'Abel. Alors je passe, à cause de ça, à ce que j'aurais voulu vous poser comme question. Et j'ai l'impression, en ayant écouté tous ces exposés, je crois avoir saisi en moi pourquoi Abel séduit actuellement. Et je crois que c'est parce qu'il peut devenir, pour la modernité ou la post-modernité, ce que Granger appelle un modèle hermeneutique, c'est-à-dire à l'intérieur des sciences humaines, des sciences en général, il y a des sciences humaines qui se fixent des modèles qui ne peuvent jamais être tout à fait formels, ce sont des modèles à contenu qui permettent de lire, comme le modèle marxiste, par exemple, de Descartes, etc. C'est des modèles sémantisés mais qui permettent de lire, de plaquer la réalité. Or, ce qui est intéressant dans ce mythe de Babel, arrivé à nos jours, et c'est là où je fais appel à votre idée là-dessus, j'ai l'impression que votre quatrième hypothèse, celle du passage, la différence pourrait répondre à tout l'ensemble des modèles que vous avez donnés. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans la façon de vivre le mythe que vous avez actuellement, mais c'est pour ça qu'il est parlant, c'est qu'il permet toutes les interprétations, justement parce qu'il ne vaut que comme passage. Je crois qu'il y a un élément, je vais travailler sur un modèle ternaire, chaque fois pas binaire, c'est-à-dire, par exemple, dans le premier, vous dites, Babel des ordres, Dieu, or, mais en plus, est-ce que c'est positif ou c'est négatif, c'est-à-dire l'aspect axiologique, donc c'est un méfait ou un bienfait. Dans le deuxième aussi, Babel, or, Dieu, des ordres, mais est-ce que les ordres sont bons ou mauvais? Parce qu'il y a aussi cet investissement axiologique qu'on fait. On aime les ordres, donc on se programme de Babel. On aime l'ordre, on se programme de Babel, donc la différence, on se réclame de Babel. Donc, il me semble que finalement votre quatrième position, celle du passage de la migration, permettez-moi de prendre tout à fait. Il n'y a pas tellement migration du même en même, mais aussi ce modèle qui est un modèle migratoire et qui permet d'investir cette hésitation qui est vécue de notre temps et qui est effectivement vachement, pour ne pas dire sublimement, évoqué par Heidegger, cette différence fondamentale qui fait que finalement ce qui compte. Mais la chose, c'est qu'elle est en passage pour devenir elle-même. C'est pour ça que je vais séduire aussi par ce tableau de Poussin ce matin, pour des choses qui sont conjointes ou bien disjointes, on peut donc décliner le réel et s'y attarder en enlevant le problème de but, de finalité, d'utilisation d'un moment ou l'autre. C'est peut-être ça aussi notre vécu actuel, et c'est pour ça que la tête nous est finie.
Merci beaucoup. Je suis intervenant à la fois avec vous. Je vous remercie de votre intervention qui développe bien au-delà. Mon exposé vient au-delà de ce que j'avais pensé. Je trouve très intéressant cette répartition des trois éléments du mythe de Babel. Et surtout, je suis d'accord avec vous qu'on a oublié le premier moment, ce moment de tautologie, non? Et oui, je suis d'accord avec vous de cette que moi aussi, en écrivant un peu, en passant sur cette scène, j'avais toujours l'impression de faire une servindung de la servindung. C'est-à-dire de trouver dans le temps moderne ce qui était proche à l'idée de la servindung de guerre. Oui, cela, il me semble, va absolument dans votre direction, dans la direction d'un modèle psychologique qui est très élargi et qui va comprendre aussi les thèses qui semblent opposées. Et cependant, il y a un danger. Et le danger, c'est qu'avec cette perspective si élargie du point de vue herméneutique, on confond, on mélange tout avec tout. Alors, qu'on emploie, il y a, à mon avis, le danger, surtout dans un certain usage que les mass-media font du mot, d'entendre Babel simplement comme synonyme de confusion, comme synonyme de mélange de tout avec tout. Alors là, je trouve là une position très, très dangereuse, et je trouve des dangers assez graves.
Moi j'ai une question concernant l'emploi de passage. Je suis d'accord que le passage, la fixation en fonction du passage, c'est une très bonne. C'est une solution réelle, une alternative réelle, à Babel, une interprétation réelle. Mais quand on parle de passage, de transit, alors il y a une idée qui est aussi une fondation de la modernité qui vient tout de suite à l'esprit, c'est rite de passage, et c'est la personne de Van Gennep et son idée du rite de passage et de la phase de passage, la phase liminale. Passage. Et lui aussi, il a fixé, son passage a intégré dans une trilogie, mais il est dommage de ne pas évoquer Van Gennep à propos de ce passage. Ça, c'est une question. L'autre, c'est un lui-même, ça concerne aussi Van Gennep, et une étymologie peut-être absurde de ma part, mais le sublime, ça a à voir avec sublimen, avec le hymen. Et là, on est encore dans Van Gennep, on est encore dans le hymen. Et le liminal et le passage, alors je vous pose un peu à tous les deux la même
question. J'ai bien compris, pour aller très vite, très essentiel, c'est de voir l'étrange flottement, la métastabilité, du terme, au moins des étymologies sublimes, puisque sub, ça veut dire sub, et cependant, c'est le comble du toit, c'est le toit. C'est le compte de la nécessité, si on veut dire, et mais en même temps ce qui est le fondement du seul. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de flottement du, j'allais dire, des contraires en interne, et qui est, je crois, très intéressant, très riche de prendre.
Oui, je tiens à souligner que moi aussi je suis entièrement d'accord avec vous et que dans mon cahier après Marx il y avait Van Gennep. Et j'ai lu ce livre, c'est le rite de passage, et je trouve que là, en effet, on peut avoir un développement très intéressant du point de vue anthropologique. Moi personnellement, je travaille dans cette direction, dans une direction. Qui va dans une nouvelle interprétation philosophique de certains concepts anthropologiques. Alors, oui, c'est aussi répétition, rite, tout cela. À mon avis, il y a les conditions pour penser toute cette matière d'une manière nouvelle.
Simplement aussi pour rester au dossier, il y a l'extraordinaire texte de Dumézi sur les
Ah oui.
Et c'est-à-dire le franchissement de la frontière par le rite du rituel de franchissement de la frontière par la déclaration de guerre. Et ça, je crois que c'est absolument parti où il y a cette espèce de jeu complexe qu'il faudrait garder très
bien au
niveau du groupe, parce que vraiment des éléments essentiels sur le problème du passage.
Et là, je suppose qu'il faudrait aller à leur père, à eux deux, qui est Trumbull, l'Américain qui a fait ce livre en 1880, je ne sais pas combien, du franchissement, sur le franchissement de la porte, le franchissement des portes, dont parle Wayne Jeanette. Oui. Et donc, je suppose, du Mézil aussi.
Oui, oui. Oui.
Oui, à propos, je voulais dire une chose à propos du Mézil. Oui, en effet, du Mézil a été. Peut-être le premier livre qui m'a posé sur cette situation et sur l'étude des problèmes de la répétition et du rythme. Oui, Di Mézil est le premier, à mon avis, qui souligne le fait que le romain, à propos des romains, non, que les romains ont la même mythologie, au fond, que les autres peuples indo-européens. Mais il n'explique jamais pourquoi les Romains ont oublié cette mythologie. Il n'arrive jamais. À mon avis, c'est une question de pourquoi les Romains, c'est le seul peuple de l'Antiquité qui a oublié les mythes, dans lesquels il y a seulement les rites. Ces rituels correspondent parfaitement à la mythologie des peuples indo-européens, mais.
Vous avez cité du sublime, pour ma phrase de commencement, quand le sublime vient d'éclater au bon moment et disperse toute chose, donc la séparation. Mais il y a un temps, vous avez dit, dans le sublime, une force qui tend vers l'unité, vers la concentration, qui tend en direction inverse. Alors, le sublime a la même structure logique. C'est concorde de discours, oxymore, de la vedessa, abutia, quid. Dès qu'il l'a été théorisé par Thésauro, par Hobbes et le théoricien anglais du 18e siècle. Et Locke dit que le rite unifie la diversité, tandis que le judgment sépare. Alors, le rite unit et le judgment divise. Oh, toutes les deux sont des parties de la compréhension même de l'esprit humain. Alors donc, le rite et le sublime fonctionnent comme unificateurs du séparé, du différent. Dans la table du Poussin, comme vous disiez, il y a deux moments de succession qui sont unifiés. Alors donc, le rapport de causalité aboli et le rapport de temporalité aboli. Et ça représente comme suivant. Le sublime, le but, comme la belle, mais encore comme le mot d'esprit, tel que Freud l'analyse, brouille les séquences temporelles, les séquences causales. Alors, on pense au fonctionnement de l'inconscient, à la logique de l'inconscient, tel qu'elle a décrit Madeleine en développant certaines parties de Freud, de la pensée freudienne. Et alors, Madeleine, à ses propos, parle d'une logique symétrique qui sera opposée à la logique binaire du rationnel. Alors, on le sait que dans l'inconscient, les opposés sont abolis, il n'y a pas de rapport de causalité. Le temps est aboli. Alors donc, si il est vrai, je le crois, je peux le trouver, le oui, c'est comme le sublime, de ce point de vue, de la logique. Comme le mot d'esprit, il représente une sortie conscient dans le conscient, alors qu'est-ce que c'est Babel? Est-ce qu'on peut la placer dans ce tableau? Dans ce tableau?
Bon, alors je vais risque d'apparaître très historiciste.
C'est le temps du 8, hein?
Je vais vous appréhender que la citation que j'ai donnée au début de mon exposé, qui est une citation d'un traité antique de Longin. Et que, ça c'est donc c'est le premier point. C'est le premier point, c'est-à-dire que je ne méconnais pas du tout que ce texte a été traduit. Publié à la fin du XVIe siècle, traduit par Boileau et qui a donné son essor européen, notamment en Angleterre, très vite à ce moment-là. Et donc, n'étonnez pas cette fortune, comme on dit, du public de Longin, mais le texte que j'ai donné en référence, tout au moins, c'était implicite dans mon exposé, en référence à la seconde sophistique, d'une part, à Alexandrine, et d'autre part, au moyen sophistique, qui constitue l'arrière-plan de la théorie de Longin, hein, la théorie du génie. Alors, ça, c'est. Je souligne ce point parce que c'est un point très important et qui permet de bien comprendre ce que Longin dit lorsqu'il dit quand le sublime vient d'éclater comme la tempête, disperse quelque chose. Et l'attention, il disperse autre chose, et de l'orateur, il condense sa force, la force de son discours, il condense sa force de son discours. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que tout ce texte roule sur du discours. C'est une théorie du discours. C'est une théorie du discours. Et que d'autre part, j'ajouterais, alors ça c'est une remarque très loin, que le mouvement, c'est une. La très vieux chef de la théorie du jugement. La théorie du jugement, c'est de conjoindre avec une copie identificatoire de Longin, de conjoindre du différent. C'est un bâton, on répétera, toute la théorie du jugement répétera. Au XVIIIe siècle, répétera la théorie catholicienne, on a deux différents, un but différent, et le jugement, c'est l'opération qui les conjoint dans une représentation complexe, etc. Bon. Alors, ça c'est une première chose. Si bien que je crois qu'il faut être très précis. L'unité, c'est pas l'identité, la totalité, c'est pas la confusion. L'unité multiple, c'est pas la condensation ou la concentration, etc. Je veux dire qu'il y a là, je crois qu'il faut faire des distinctions. En revanche, alors là où je suis absolument d'accord avec vous, c'est que toute la théorie du huit, enfin, la théorie de l'esprit, telle qu'on peut la trouver au fin du XVIIIe siècle et notamment dans le romantisme allemand, va être la théorie même du sublime, c'est-à-dire l'éclair, l'éclair unificateur des contraintes, hein, dans un instant exceptionnel. Et le mot d'esprit, on voit très bien Freud connaît très bien ça, mais le mot d'esprit freudien, le travail sur l'esprit, il va il va travailler à l'intérieur de ce chêne. Et ce chêne-là, c'est très exactement le huit sexuel. Hein, au sens de cette espèce d'instant dans lequel les contradictoires se trouvent unis. Hein, et le mot d'esprit, c'est ça. Alors, c'est un point très important. Et alors, Babel, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, et je suis très content de l'intervention de Léa à ce sujet, sur la première phrase, quand j'ai parlé ce matin, ce qui m'avait paru très net, de nostalgie du même et de désir du même. Et on va retrouver le problème du passage. Hein, nostalgie du même, ils avaient une même langue, et j'aime beaucoup une même langue, et ils vise, dans la dispersion de la confusion, il vise à retrouver une âme. C'est-à-dire, je veux dire que oui, oui, vous avez bien raison.
Et alors, on va l'envoyer comme une métaphore, on peut l'envoyer aussi comme une métaphore de l'invention d'Abel. Et bon, je sais bien que vous avez cité du sublime Arthur Rogin, qui a influencé Burke et un peu d'autres. C'est vrai que l'unité n'est pas la même, mais l'unité de différents produit quelque chose qui est encore différent, qui n'est pas le différent. Alors c'est une sorte d'unification, de diversité, de l'humanité, tout ça.
Mais là c'est la théorie du jugement, on n'est pas du tout dans ce milieu.
Non, moi je veux dire, il y a cette contraposition. Le sublime et le huit sont dans la théorie de ce qui unifie les huit tournants et ce qui unifie les huit, le jugement et ce qui sépare dans le fonctionnement de l'esprit humain.
Oui, j'aimerais soulever la problématique de la bibliothèque de Babel pour finir. Parce que la bibliothèque de Babel ne trouve pas une place très explicite dans ton système. Et alors j'ai essayé de la placer à l'intérieur de ces ordres-là, parce que ça reste quand même un problème central, le problème organisationnel du savoir, sur fond ça que médiatique, nous faisons de l'ordre, la relation entre Babel et Dieu, le fait que les Babéliens comprennent ce que Dieu a voulu avec ce qui s'est passé d'une façon ou d'une autre, et qu'il y a la possibilité de registration de la réaction. Alors, si on voit la première classe, celle qui fut appelée théologique, où Dieu était l'ordre, le problème organisationnel du savoir sera plutôt résolu par l'encyclopédie. Ça, c'est d'ailleurs banalisé dans l'histoire de la philosophie, pour les Lumières, l'encyclopédie, c'était cette médiation entre la divinité. Bon, ça, c'est l'encyclopédie, c'est pas la bibliothèque, en tout cas. Le second, dans la vision humaniste et émancipatrice, où Dieu devient le désordre, comme organisateur de du savoir, pour cette vision-là, les humanistes encyclopédistes ont tout un souffle d'antiquaire à détruire, plutôt. Un tas de vieilles restes comme ça, de savoir, de petites ruines métaphysiques, etc. Donc là, la relation devient une relation conflictuelle, comme on a quand on dans ce monde des sucres. Alors, dans la troisième version, c'est le détournement réformiste, où Dieu était porteur de différences, donc aussi d'un certain type d'organisation, des hiérarchies, des notions, des valeurs, etc., tu as l'Académie française, tu n'as pas la bibliothèque. C'est encore une quatrième version. Et quatrième version, mi-chemin entre un post-babélisme et quand même un ordre de type divino-babélique, tu avais Dieu comme identité face à un monde semi-post-babélique de la différence. Et là, effectivement, tu avais une figure d'identité qui est très difficile à placer, mais moi je le placerais plutôt comme l'archiviste bienveillant, de tout, de prix Nobel jusqu'aux émissions de télé. Mais comme on sait, on lui confie la mémoire, comme on sait, l'archiviste peut tromper, peut oublier quelques petits trucs. Donc toujours pas la bibliothèque, il reste quelque chose dehors, quelque part. Alors, justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir le poste de Dieu, il faut avoir l'endroit où ça ne fait pas de problème, l'avoir. L'au-delà, parce qu'on a toutes les versions et toutes les traductions de la Bible dans la bibliothèque. Il y a effectivement, donc il n'y a pas de problématique là. Mais la figure de la bibliothèque de Nineveh, d'Assurbanipal, reprise par Borbès plus tard, était déjà une version de post-Dieu et de post-Babel.
J'ai une toute petite question. Non,
est-ce que je peux faire une ultime variation sur la notion sublime à propos de ce qu'a dit de Marin-Sol? Insistant plutôt cette fois-ci sur la notion de l'unité. Alors, en ce cas, la ligne est dehors ou dedans, est-ce qu'on ne pourrait pas là définir le sublime comme ce qui est indécidable? D'une part, il faudrait voir même peut-être la notion de l'ailleurs de l'océan, d'autre part, ce qui est indécidable, ce serait une notion de l'océan.
Alors, je me permets de l'abstenir de poser plus de questions. Nous avons sans doute tous beaucoup plus à dire et on pourrait continuer longtemps. Pour le moment, je me limite à vous remercier de l'intelligence et de la beauté de votre participation à toutes ces femmes.